Bonsoir. Alors, on tient cette séance de formation sur la grève générale, une circonstance un peu particulière, puisque on est toutes et tous engagés dans un mouvement où on cherche à créer, au-delà de manifestations importantes, colossales même, de désaccords populaires, de grèves ponctuelles, comment on crée un rapport de force et qui nous permette de gagner. Bon. Alors, là, il n'y aura pas de discussion pratique sur le mouvement ce soir. C'est une discussion plus générale qui on est pour essayer de prendre un peu de recul, parce qu'en gros, quand on a du recul, ça permet toujours d'être plus efficace pour l'action quotidienne. Bon, alors dans tout affrontement de lutte de classe de cette nature-là, l'adversaire il cède lorsqu'il a plus à perdre qu'à gagner à maintenir ses positions. Bon. Les capitalistes sont prêts à céder beaucoup, tant qu'ils cèdent pas, ce qui est essentiel pour eux, c'est leur pouvoir, tant leur pouvoir économique que leur pouvoir politique. Ils cherchent à garder ça en toutes circonstances. Donc, quand le rapport de force est assez puissant, il lâche. Dans les entreprises capitalistes classiques, des entreprises privées, des entreprises qui font des profits par leur production, bon, la grève, elle cherche à comment dirais-je, à limiter les profits du patron, hein, en arrêtant le travail, on arrête les profits. Mais c'est pas forcément toujours ça le point de départ. Le point de départ, c'est une revendication, c'est aussi le fait que les conditions de travail sont insupportables, la volonté de dire stop, la dignité, enfin, il y a toutes sortes de motivations. Bon, mais la grève est efficace quand il y a plein de salariés qui sont en grève et que ces pleins de salariés bloquent la production effectivement. Bien. Le problème, c'est que l'évolution de la structure des entreprises conduit à ce que ce type d'affrontement, tous les salariés contre un patron, est de plus en plus rare, en fait. Il est beaucoup moins fréquent qu'il ne l'a été au 19e et surtout au 20e siècle. Bon. D'abord, les grosses entreprises, elles sont de plus en plus grosses, de plus en plus mondialisées, avec des unités de production de plus en plus petites. Si on prend l'exemple de Renault, entre le début du 20e siècle où il y avait une usine, la fin du 20e siècle où il y avait 15 usines, aujourd'hui où il y en a une trentaine, plus de 30, dans une trentaine de pays, évidemment, la grève dans une usine, elle n'a pas le même effet économique dans tous les cas de figure. Bon. D'autant que quand on ajoute à tout ça l'augmentation de la sous-traitance et puis la précarisation des gens qui sont à la production directement, l'efficacité économique propre d'une grève, même très massive dans une usine, bon, a perdu de sa force. Bon. Dans les entreprises de petite taille, c'est l'inverse en vrai. Parce que les vraies entreprises de petite taille, qui sont des entreprises capitalistes classiques avec un marché, des clients, etc., sont assez rares. Elles sont souvent les sous-traitantes des grosses et leur marge de manœuvre est très limitée. Et donc, dans ces circonstances-là, la grève strictement économique qui coince le patron est une grève qui a pas du tout la même force qu'elle a pu avoir depuis la naissance du capitalisme. Alors, souvent, on a posé la question, et elle est juste, de dire le mode de production aujourd'hui des zéro stock fait que au plan économique ce qui coince le plus les capitalistes c'est le blocage des flux, hein. C'est évident, mais le blocage des flux il se pose que quand on est dans une mobilisation générale, c'est-à-dire qu'on peut pas bloquer les flux de Renault ou de l'entreprise XY. Bon, et le blocage des flux qui a été pendant longtemps l'apanage du chemin de fer, et plus le cas, hein. Aujourd'hui, le transport ferroviaire, c'est 9% des flux. Les flux, ça représente presque 20% du PIB, hein. Donc c'est colossal. C'est l'essentiel des produits en cours de fabrication sont sur les routes, en fait, aujourd'hui. Mais ça pose la question de la généralisation qu'on a trouvée dans toutes les mobilisations sur lesquelles les gilets jaunes ont réellement agi. Dans l'affrontement avec l'État, quand on est dans une mobilisation comme aujourd'hui, une mobilisation sur une réforme ou les fonctionnaires de manière générale, on n'est plus exactement dans le strict point de vue du blocage économique. Parce que le gouvernement ou de manière générale le pouvoir politique cède, lui, avec d'autres critères. Il cède quand la mobilisation est telle qu'elle le met dans une situation impossible pour conserver le minimum de consentement populaire à sa domination. Et donc, on l'a vu avec les gilets jaunes, c'est la violence qui qui l'a mis dans une situation où il a été obligé de lâcher du lest. Dans d'autres circonstances, ce sont du contexte politique qui faisait que c'était ingérable. Mais les mobilisations de cette nature sont des mobilisations qui fondamentalement cherchent à obtenir une défaite politique de l'adversaire. Alors évidemment, il y a une relation entre l'économique et le politique, il n'y a pas de frontière entre les deux. Il va de soi que quand l'économie est complètement bloquée, le pressing politique sur le pouvoir est bien supérieur. Mais sur le fond, il lâche de cette manière-là. Bien. Alors, ce qui est important de comprendre dans tout ça, c'est que la logique des conflits, des luttes de classe, des grèves, est aujourd'hui une logique de plus en plus globalisante. C'est-à-dire que les petites grèves limitées, alors il y en a, il y a des centaines d'entreprises qui sont en petite grève aujourd'hui, mais qui sont des grèves longues, difficiles, dans lesquelles, par exemple, les salariés d'Amazon, ils pèsent autant sur les questions de la marque Amazon, comment on l'attaque, que le strict point de vue économique. Donc ce face-à-face existe toujours, mais globalement, les chiffres de grévistes sont en diminution brutale depuis les années 90. Il y a globalement, par rapport aux années 80, 10 fois moins de grèves aujourd'hui qu'il y en avait à l'époque. De grèves au sens du nombre de grévistes, les calculs par jour de grève. Alors même si les statistiques sont discutables, si c'est pas 10 fois moins, c'est 8 fois moins, mais ça change pas grand chose. C'est qu'il y a eu un effondrement, et ce qu'on constate, quantitativement, il y a moins de grèves, et qualitativement, la part de la fonction publique est de plus en plus grande dans les pourcentages de grévistes. Donc ça, c'est les deux grandes évolutions. Et la troisième grande évolution sur laquelle je voulais mettre l'accent, c'est la place des manifestations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis 95, on a toute mobilisation significative au plan national s'accompagne de manifestations de millions de personnes. Bon, la mobilisation en cours contre la réforme des retraites est de ce point de vue-là encore plus importante que les autres, puisqu'il y a eu 6 ou 7 journées avec plus d'1 ou 2 millions de manifestantes et de manifestants dans les rues. Mais il y a une volonté des grévistes, des salariés qui sont impliqués dans le mouvement de marquer le rapport de force par la manifestation. Et on le sait bien, aujourd'hui on voit des gens qui font un débrayage de 2 heures pour aller à la manifestation, parce que c'est ce décompte des manifestants qui marque ce rapport de force politique. Et je crois qu'il y a là un point qu'on a intérêt à prendre en compte, de toute façon qu'il faut prendre en compte, parce que l'intérêt, c'est la réalité tout simplement, c'est que cette place des manifestations me semble être un des éléments de réponse à la tendance à la globalisation des conflits. Mais le problème qu'on a, c'est qu'une mobilisation massive de 24 heures, une grève, ça ne reste qu'une protestation. Et ça n'a pas la dynamique d'une grève générale. Alors Rosa Luxembourg le décrit de manière très très brillante. Une grève générale, enchaînée d'avance dans les fers de la légalité, ressemble à une démonstration de guerre avec des canons dont la charge aurait été auparavant jetée à l'eau sous les yeux de ses ennemis. La grève générale, la grève de masse, comme on l'appelle dans nombre de débats à l'époque, au début du XXe siècle, c'est bien autre chose que ces journées de grève, ces journées de manifestation. C'est, comme le dit Trotsky à propos de 36, c'est la grève, le rassemblement au grand jour des opprimés contre les oppresseurs, le début classique de la révolution. Ou Rosa Luxembourg, dès 1906, après les grandes grèves en Russie, disait « La grève générale est le caractère, le résumé de toute une période de lutte de classe. Ce n'est pas la grève en masse qui produit la révolution, c'est la révolution qui produit la grève en masse. » Et donc c'est la situation révolutionnaire, au sens où la crise, qui produit une grève générale. Alors c'est quoi une grève générale? Ernest Mandel, le grand théoricien de la 4e internationale, est dans une formation donnée aux militants belges, disait « elle est largement interprofessionnelle, elle déborde le secteur privé ». On était à une époque, dans les années 60-70, où la majorité des grèves étaient dans le secteur privé, et elle concerne aussi toute une série d'institutions de l'État, mais il ajoute une description qui me semble extrêmement importante pour nous. C'est l'atmosphère. C'est insaisissable, mais c'est peut-être le facteur le plus important. L'atmosphère qui est créée dans le pays est une atmosphère d'affrontement global entre les classes. C'est-à-dire que ce n'est pas un affrontement entre un secteur du patronat et un secteur de la classe ouvrière, mais que toutes les classes de la société ont l'impression que c'est un affrontement entre la bourgeoisie dans son ensemble et la classe ouvrière dans son ensemble, même si celle-ci n'est pas complètement impliquée. Et donc, ces événements de cette ampleur-là, ce sont des changements brusques de la situation qui bouleversent le cours habituel des luttes de classe, des relations sociales, des relations politiques, et sont directement politiques, évidemment. Mais ces changements brusques, d'une ampleur qui font bouger des millions et des millions de travailleuses et de travailleurs, et qui provoquent des évolutions dans la conscience de toutes celles et tous ceux qui sont impliqués, ça peut pas être provoqué par une décision d'une organisation quelle qu'elle soit. C'est le produit de toute une situation, d'une évolution de la situation, d'un moment où celles et ceux d'en bas pensent qu'il y a possibilité, par leur action, de changer réellement la situation. Alors, il y a eu quelques grèves générales dans l'histoire des luttes de classe qui ont été décidées par les organisations syndicales. Je citerai pour balayer quelques exemples, la grève de 1913 en Belgique pour le droit de vote sans système censitaire. Il y a eu une grève en 1934 en France après l'attaque fasciste contre l'Assemblée nationale, une grève à Paris en 44 au moment de la libération de Paris, une grève en 61 au moment du putsch des généraux à Alger et qui menaçait d'atterrir en France, qui étaient des grèves qui étaient appelées par les organisations syndicales, mais qui correspondaient à un moment politique où dans la population ouvrière, dans les classes populaires, il était essentiel de réagir collectivement. En vrai, les deux grandes grèves générales qui sont les points de référence de toutes nos discussions, à savoir 1936 et 1968, ont éclaté sans aucun appel à la grève des organisations syndicales. Je vais y revenir en quelques mots parce que c'est important de comprendre que juin 36, par exemple, elle succède à une série de grèves très très importantes dans des secteurs, notamment de la métallurgie. Elle s'est déclenchée quelques jours après une manifestation colossale en mémoire des morts de la Commune, 600 000 personnes à Paris. Et surtout, entre le moment où le gouvernement de Front Populaire a été élu et le moment où il prend ses fonctions. C'est un mouvement de masse qui s'engage sans aucun appel, donc, qui commence dans la métallurgie parisienne, et les vagues de grève vont toucher en quelques jours, quelques semaines, la quasi-totalité des secteurs professionnels, 3,5 millions de grévistes, un salarié sur trois à l'époque, et dans tous les secteurs. La vie est complètement bouleversée, les usines sont occupées, des assemblées générales, souvent des comités de grève à cette époque, qui remettent de fait en cause la propriété capitaliste et la volonté des patrons de gérer leur entreprise comme ils le veulent. Et donc on a un mouvement des exploités, des opprimés, qui se rassemblent comme classe. En gros, c'est le gouvernement, le changement gouvernemental tarde. Il y a en même temps un soutien du gouvernement, mais en même temps la crainte d'avoir une déception pas la possibilité d'avoir tout ce dont on avait envie. Donc on y va. Bon, et ce déclic-là est un déclic qui provoque la plus grande grève avant 68, mais qui est une grève absolument colossale, qui aboutit au résultat que, qui, à des résultats qui n'étaient pas du tout prévus dans le programme du Front Populaire, hein. Il y avait réduction du temps de travail, là on a 40 heures et paiement des heures supplémentaires, et on a surtout les 15 jours de congés payés, les délégués du personnel, la mise en place de conventions collectives dans des conditions tout à fait différentes. Bon. Donc on a 68, ça, c'est un autre facteur qui déclenche, c'est pas, hein, c'est, en fait, c'est pareil, il y avait eu, dans les mois qui ont précédé, une série de grèves extrêmement combatives qui montraient qu'il y avait une évolution dans la classe ouvrière. Bon, mais c'est surtout l'usure du régime gaulliste 10 ans après le coup d'État de 58 qui explose à partir de quelques dizaines de milliers d'étudiants qui se mobilisent sur des règlements sur la mixité des cités universitaires et la possibilité de tenir un meeting à la Sorbonne, qui provoquent les barricades, et ces barricades provoquent une crise politique qui déclenche la grève générale. Bien. Mais la répression est telle que les syndicats appellent à une journée de grève et de manifestation contre la répression au Quartier Latin, dans laquelle apparaissent les mots d'ordre contre De Gaulle, disant « ça suffit », etc., etc. Et dès le lendemain, les grèves commencent sans que personne ne dise rien, s'étendent comme une traînée de poudre. C'est encore plus important qu'en 36. Hein. Il y a eu près de 9 millions de grévistes, un salarié sur deux en grève, 4 millions de salariés en grève 3 semaines, 2 millions en grève plus d'un mois. C'est donc toutes les concentrations ouvrières, tous les secteurs professionnels sont en grève et les usines sont occupées. Voilà. Et là, la même chose se produit, c'est-à-dire une évolution de la conscience, des pratiques collectives au sein des salariés qui est absolument colossale. Hein. Alors, 68, les résultats d'un point de vue strictement revendicatif sont assez ridicules, hein, parce que c'est une très forte augmentation de salaire des sections syndicales d'entreprises. Bon, mais ce qui a changé, c'est le rapport de force dans les entreprises. C'est-à-dire que ces mouvements créent des situations qui vont avoir un effet dans les luttes qui suivent jusqu'au milieu des années 70, dans la foulée de ce mouvement de 68. Sachant que De Gaulle réussit un retournement puisqu'il gagne les élections qui suivent 68, mais c'était que il retardait l'échéance. En réalité, le mouvement a blessé mortellement le régime gaulliste. De Gaulle quitte le pouvoir après un référendum en 69. Ce qui est intéressant dans 68, et Daniel Ben Saïd et Alain Krivine l'écrivaient dans leur bouquin 1968, fin et suite, si nous devions garder quelque chose du messianisme de mai, ce n'est pas l'utopie qui tient lieu de politique, c'est l'irruption, la brèche, l'événement, la porte étroite par où peut à tout moment entrer du possible. Parce qu'une grève générale avec occupation des entreprises, c'est bien plus qu'une journée d'action qui dure. L'oppression quotidienne disparaît. Plus de pointeuses, plus de chefs. Des centaines de milliers, des millions de travailleurs sont rassemblés, discutent, parlent ensemble. Simone Veil, la philosophe qui a travaillé comme ouvrière dans la métallurgie avant de s'engager avec les républicains espagnols, qui travaillait donc à cette époque, l'écrit magnifiquement.
Il s'agit, après avoir toujours plié, tout subi, tout encaissé en silence pendant des mois et des années, d'oser enfin se redresser, se tenir debout, prendre la parole à son tour, se sentir des hommes pendant quelques jours. Indépendamment des revendications, cette grève est en elle-même une joie pure, une joie sans mélange. Oui, une joie. J'ai été voir les copains dans une usine où j'ai travaillé il y a quelques mois. J'ai passé quelques heures avec eux. Joie de pénétrer dans l'usine avec l'autorisation souriante d'un ouvrier qui garde la porte. Joie de trouver tant de sourires, tant de paroles d'accueil fraternel. Comme on se sent entre camarades, dans ces ateliers où quand j'y travaillais, chacun se sentait tellement seul sur sa machine. Joie de parcourir librement ces ateliers où on était rivé sur sa machine, de former des groupes, de causer, de casser la croûte. Joie d'entendre, au lieu du fracas impitoyable des machines, symbole si frappant de la dure nécessité sous laquelle on pliait, de la musique, des chants et des rires. On se promène parmi ces machines auxquelles on a donné pendant tant et tant d'heures le meilleur de sa substance vitale. Et elles se taisent. Elles ne coupent plus de doigts. Elles ne font plus de mal. Joie de passer devant les chefs la tête haute. On cesse enfin d'avoir besoin de lutter à tout instant pour conserver sa dignité à ses propres yeux, contre une tendance presque invincible à se soumettre corps et âme. Joie de voir les chefs se faire familier, par force, serrer des mains, renoncer complètement à donner des ordres. Joie de les voir attendre docilement leur tour pour avoir le bon de sortie que le comité de grève consent à leur accorder. Joie de dire ce qu'on a sur le cœur à tout le monde, chefs et camarades, sur ces lieux où deux ouvriers pouvaient travailler des mois côte à côte sans qu'aucun des deux sache ce que pensait le voisin. Joie de vivre parmi ces machines muettes au rythme de la vie humaine, le rythme qui correspond à la respiration, au battement du cœur, au mouvement naturel de l'organisme humain, et non à la cadence imposée par le chronométreur. Bien sûr, cette vie si dure recommencera dans quelques jours, mais on n'y pense pas. On est comme les soldats en permission pendant la guerre. Et puis, quoi qu'il puisse arriver par la suite, on aura toujours eu ça. Enfin, pour la première fois, et pour toujours, il flottera autour de ces lourdes machines d'autres souvenirs que le silence, la contrainte, la soumission. Des souvenirs qui mettront un peu de fierté au cœur, qui laisseront un peu de chaleur humaine sur tout ce métal.
Et la parole se libère, tout le monde discute de tout. Et dès lors que cette force-là se met en place, évidemment, quand on peut discuter de ce qui est possible à des centaines de milliers, le champ des possibles est tout à fait majeur. Il s'ouvre et la question du pouvoir est posée à partir du moment où cette situation-là arrive. Mais pour autant, poser la situation du pouvoir, ça ne résout pas toutes les questions du pouvoir. Et c'est là que c'est ce que ces grèves générales mettent en évidence, c'est à quel point la conception anarcho-syndicaliste de la grève n'est pas juste. Comme le disait Engels dès 1873 sur Bakounine, hein, un beau matin, tous les ouvriers de toutes les entreprises d'un pays ou même du monde entier abandonnent le travail, obligeant ainsi en 4 semaines tout au plus les classes possédantes soit à capituler, soit à attaquer les ouvriers. Si bien que ceux-ci auraient le droit de se défendre et par là même l'occasion d'abattre la vieille société tout entière. La faiblesse de cette thèse, c'est de penser qu'il suffit d'arrêter le travail sur le plan économique pour que la société s'effondre. Elle sous-estime gravement le problème du pouvoir politique, de l'appareil d'État, du gouvernement, de tout ce qui permet à la bourgeoisie de gouverner effectivement l'ensemble de la société, l'ensemble des relations dans la société. Et donc cette question du pouvoir elle se pose à tous les niveaux, économique bien sûr, dans les entreprises, mais sur toutes les décisions à prendre aujourd'hui face au dérèglement climatique, qui contrôle l'armée, qui contrôle la police. Comment on peut changer réellement, détruire cet appareil d'État, mettre en place un mode de gouvernement par en bas? On voit bien que la grève générale, quelle que soit sa puissance, son ampleur, sa durée, elle pose ces questions-là, elle déstabilise totalement le pouvoir de la bourgeoisie, mais elle ne peut pas spontanément résoudre ces questions. Bon. Ce qu'on appelle une révolution nécessite autre chose, nécessite que cette crise révolutionnaire trouve une solution. Hein. La crise révolutionnaire, comme Lénine le disait, hein, c'est l'impossibilité pour les classes dominantes de maintenir leur domination sous une forme inchangée, le sommet peut plus, en bas, la base ne veut plus, la société telle qu'elle est, et il y a une activité des masses qui est colossale. Et ce sont des changements objectifs, indépendants de la volonté de partis ou de groupes révolutionnaires. Sans ça, la révolution est impossible. Mais la situation ne surgit pas ne surgit pas de toute situation révolutionnaire. Mais seulement dans les cas où, à tous ces changements objectifs, cette mise en mouvement énumérée, vient s'ajouter un changement subjectif, à savoir la capacité de la classe révolutionnaire, de la classe des exploités, des opprimés, des dominés dans cette société capitaliste, de mener des actions révolutionnaires de masse assez vigoureuses pour briser l'appareil d'État, pour briser le pouvoir de la bourgeoisie, pour mettre en place des formes de domination différentes. Bon, et ça n'est possible qu'à deux conditions. D'une part, qu'existent des formes d'organisation de celles et ceux d'en bas qui soient susceptibles de remplacer ce pouvoir, et enfin, qu'il y ait un projet politique qui porte tout ça, qui concentre les efforts, qui concentre les attaques à l'endroit où la bourgeoisie est la plus faible. Et plus ces ces formes d'auto-organisation, plus ce projet politique est fort, bon, plus on divise l'adversaire et plus la possibilité d'un affrontement victorieux et grand. Bon. Alors, toutes les formes de double pouvoir, elles ont pris des noms différents. Les conseils ouvriers, les soviets, le nom importe peu. Ce qui est décisif, c'est que celles et ceux qui sont exploités et opprimés dans cette société s'organisent par elles-mêmes. Bon. Avec une chose importante pour nous, c'est de comprendre que ces structures de double pouvoir sont à la fois le produit de la crise révolutionnaire, mais également celui des expériences collectives précédentes. Tout est toujours nouveau, toutes les formes sont nouvelles, mais on ne part jamais de rien. Bon. Donc, nous, on doit réfléchir à toutes ces questions de grève générale, de crise politique, de crise révolutionnaire, où est-ce que ça peut aller, en partant de ça. Hein, la grève générale peut être le début de la révolution, mais elle n'est pas automatiquement la révolution. Bon. Et les formes d'auto-organisation, les conseils ouvriers, les soviets, etc., ne sont pas spontanées. Hein. On le voit bien dans tous les mouvements auxquels on participe, les assemblées générales, le vote, la discussion, l'élection d'un comité de grève démocratique. C'est pas facile, c'est pas spontané. Pourtant, ce sont ces formes d'organisation qui sont des embryons de pouvoir populaire, qui permettent de briser le carcan de l'exploitation, de la domination, qui permettent au collectif d'acquérir une conscience, qui permet au collectif de réfléchir à comment on peut changer la vie ensemble, comment on peut changer la société ensemble, sans s'en remettre aux sachants, aux dominants, etc. Alors évidemment, comme tous ces embryons, je dis que ce sont des embryons, ça évolue, ça change selon les expériences. Bon, il faut des lieux de rencontre. Et la bourgeoisie l'a bien compris. On regarde en France aujourd'hui tout ce qui est fait par le pouvoir pour empêcher les lieux de rencontre entre les gens. Occuper une fac aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'il y a 50 ans. Occuper un lycée, c'est pas pareil qu'il y a 50 ans. Occuper une usine, occuper un rond-point, occuper une place pour permettre ces échanges-là sont extrêmement difficiles. Parce que la société capitaliste et le néolibéralisme, dans sa forme actuelle, ont très bien compris que l'individualisation des exploités et des opprimés est une question essentielle au plan politique. D'arriver à ce que chacune et chacun soit tout seul en face de ce pouvoir qui organise toute la vie et se sente totalement impuissant pour changer la société est quelque chose de majeur du point de vue de la bourgeoisie. Et qui a des effets, y compris dans la façon dont les salariés, les travailleuses et travailleurs participent, y compris aux mobilisations. C'est un peu les organisations proposent, les individus choisissent. Et sont souvent même, on le voit bien, écartés comme source de crise, les délices des discussions, la gestion des désaccords, l'échange d'arguments, etc. C'est très grave. Nous, on a intérêt à être celles et ceux qui comprennent qu'on peut concevoir individuellement une modification de la société et que cette possibilité qu'existe une révolution socialiste ne peut s'appuyer que sur le fait que les exploités, les opprimés, qui sont 70% de la population, soient capables de s'organiser collectivement et d'être une force collective capable d'apporter une réponse à la crise de la société. Et donc, on doit chercher en permanence à entretenir, à permettre, à entretenir, à valoriser toutes les formes d'auto-organisation, alors des formes les plus basiques, jusque aux assemblées générales, aux décisions prises ensemble, le plus possible au consensus, ou à des fortes majorités, l'élection de représentants, et y compris, quand la situation s'améliore, à arriver à ce qu'on soit capable de remettre en marche une usine soi-même, etc., etc. Bon, donc c'est quand on se met à discuter de tout ça, on voit bien que la situation qu'on connaît aujourd'hui est un peu loin de tout ça. Hein. Mais il faut qu'on reste persuadé que si on veut être utile dans les luttes, dans les échéances sociales et politiques telles qu'elles se déroulent aujourd'hui, on doit bien comprendre que c'est pas les révolutionnaires qui décident d'une situation révolutionnaire. C'est pas les révolutionnaires qui décident qu'il va y avoir ou pas une grève générale. Mais nous, on a intérêt à comprendre une chose en plus. Tout n'est pas possible en permanence. Mais dans chaque situation, il y a toujours plusieurs possibilités. Et c'est toujours l'intervention humaine, c'est-à-dire militante, qui permet à chaque situation de trouver trouver la réponse la plus favorable, l'issue la plus favorable à un projet émancipateur. Et donc nous, dans toutes ces circonstances, on peut intervenir efficacement sur deux plans. Le premier, c'est de donner à la bataille son mot d'ordre, sa tendance, comme dit Ernest Mandel, de façon qu'en toute phase et à tout moment soit réalisée et mise en activité la somme entière de la puissance déjà engagée dont le prolétariat dispose. C'est comment on unifie cette force-là, parce que c'est elle qui donne globalement la puissance face à la bourgeoisie. Et deuxièmement, et ces mots d'ordre, d'ailleurs, dans les situations politiques, peuvent évoluer assez vite, hein, parce que les échéances, les événements d'une lutte, d'une grève générale, bon, font que les mots d'ordre peuvent changer, évoluer en fonction des nouvelles coordonnées, parce que il se passe parfois en une journée autant que dans 5 ans de lutte de classe. Donc, il faut savoir le mesurer très, très rapidement. Et le deuxième est de travailler en permanence à construire les éléments d'auto-organisation. Faciliter, permettre, conforter toutes les avancées dans la démocratie, les débats collectifs, les échanges, l'élaboration. Il ne s'agit pas seulement de recouper l'avant-garde, même s'il faut le faire parfois, mais il faut que cette avant-garde, elle serve à ça, à permettre au maximum d'exploiter et d'opprimer, de s'impliquer dans la lutte, de s'organiser par eux-mêmes, par elles-mêmes. C'est ainsi qu'on aura une action utile pour toutes celles et tous ceux d'en bas, et c'est ainsi qu'on mesure l'ampleur de nos tâches, y compris dans les mobilisations actuelles.